RCF.
Cette semaine dans Halte Spirituelle, je vous propose de parler de l'éros, cette force de vie, cette énergie sans laquelle nous ne serions pas vivants. Dans la mythologie grecque, Eros, c'est le dieu de l'amour. On retrouve aussi ce terme dans la tradition chrétienne. Mais en quoi cette notion nous rejoint-elle, notamment dans la vie spirituelle? Pour en parler, je reçois cette semaine Philippe Dautet, prêtre orthodoxe, directeur du centre spirituel Sainte-Croix. Il est l'auteur du livre « Eros et liberté, clé pour une mutation spirituelle » paru chez Nouvelle Cité. Philippe Dautet, bonjour.
Bonjour.
Un mot sur la vie spirituelle et la religion, parce qu'au début de votre livre, vous dites qu'il faut sortir d'une vision extérieure de la religion. Vous écrivez « La religion est pour l'homme et non l'homme pour la religion ».
Oui, je reprends cette formule du Christ qui dit « Le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat » dans les évangiles. Donc ce qui signifie clairement, comme le Shabbat est l'essence de la religion juive, le point clé de la religion juive et de la loi aussi, alors nous pouvons dire la loi est pour l'homme et non l'homme pour la loi. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas être asservi à la loi, c'est la loi qui est au service de l'être humain. De même, la religion doit être au service de l'épanouissement spirituel de l'être humain et non pas l'être humain s'aliéner à des croyances ou s'aliéner à un système religieux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de le dire parce que, vous savez, il y a une grande méfiance par rapport aux religieux qu'on confond et qu'on amalgame avec tout ce qui se passe et les attentats. Or, en fait, il est important de dire que la religion est au service de l'épanouissement spirituel de l'être humain, c'est-à-dire au service de l'amour. Clairement, dans les évangiles, la finalité de la religion qui récapitule toute la loi et les prophètes, c'est tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le tu aimeras, qui est tout à fait en relation avec l'éros ici, puisque le tu aimeras est dans l'épanouissement de l'éros, le tu aimeras est la finalité de la religion, et c'est important de rappeler que la religion est un ensemble de codifications, de rites et de pratiques au service et dans la perspective du « tu aimeras ». Et si ce n'est pas dans cette perspective, alors la religion est dévoyée. Et je crois qu'il faut l'affirmer fortement pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on n'assimile pas justement spiritualité et religion et que la religion ne vaut que dans la perspective de l'amour.
Alors l'amour, justement, revenons-y. Quand on dit « éros », on pense au mot « érotique », à la sexualité. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, ce mot « d'éros » ?
Alors je crois que c'est une question de vision de l'homme. Si on a une vision biologique de l'être humain, alors l'éros est lié à la sexualité. Le désir, c'est le désir sexuel, ou le désir de manger aussi. Donc tout désir de survie, je dirais, de vie existentielle, est éros. Et il est à ce moment-là réduit à la dimension de l'appétit. Appétit sexuel ou appétit nutritionnel.
Ce qui nous fait vivre.
Ce qui nous fait vivre, voilà. Mais c'est une anthropologie très réduite. On la réduit au corps et au physiologique et au biologique.
À l'horizontale de nos vies.
Si nous ouvrons sur la dimension de la psyché, alors l'éros a la résonance de l'amour, c'est-à-dire du désir d'aimer et d'être aimé que chacun porte en soi. Qui n'a pas le désir d'aimer et d'être aimé? Donc c'est ouvert sur la deuxième dimension que le psyché. Si nous ouvrons sur la dimension de l'être et nous entrons dans une vision en plénitude de l'être humain, qui n'est pas que corps, qui n'est pas que psyché, qui est aussi esprit, alors l'éros est aspiration à être, aspiration à une plénitude, aspiration à une plénitude de vie. Et à ce moment-là, nous trouvons une autre dimension de l'éros que nous portons tous en nous, car il y a une grande différence entre être en vie et désirer vivre, être en vie et aspirer à une plénitude de vie. Et je crois qu'il est très important de prendre soin de l'éros, c'est-à-dire de prendre soin de notre soif de vie, de notre soif d'être, de notre soif d'accomplissement, car c'est ça qui nous porte, et cette soif est à la racine de la créativité, de l'inventivité et du déploiement de tout notre être qui, dans cet élan de vie, ne désire que l'épanouissement et la plénitude.
Jesus.
Philippe Dautet, les Grecs différencient les types d'amour. Alors, il y a Eros d'un côté, Philia, Charis, Agapé. Oula, c'est difficile de s'y retrouver. Et puis, généralement, on oppose Eros et Agapé dans le christianisme.
Oui, justement, parce qu'il y a une défiance par rapport à l'Eros. Or, pour moi, il n'y a pas d'agapé sans l'Eros.
Alors, c'est quoi l'agapé?
Premièrement, on va dire Eros. Eros comme désir, c'est ce que nous venons d'exprimer. L'Eros, le désir de vie. Puis ensuite, Philia. Philia, c'est le désir de la rencontre, c'est le désir aussi de l'amitié. Donc, c'est toute la dimension de réciprocité et du fait qu'on aime partager avec l'autre, conjuguer nos efforts et conjuguer aussi toute la dynamique intellectuelle ou en tout cas toute une dynamique de d'affinité et de convivialité. Donc ça, c'est philia. Charis, c'est toute la dimension du partage et la dimension aussi de la générosité. Donc il y a aussi cette dimension de l'amour charis en nous qui veut exprimer le charisme, mais qui veut exprimer son don, donc dans la générosité. Et puis, agapé. Le mot agapé est réservé à Dieu. Le seul qui aime vraiment d'une manière agapique, c'est Dieu. Dans l'amour don de soi, qui n'attend pas de retour, qui est un amour
gratuit,
inconditionnel, gratuit, qui se donne de toute façon, comme le soleil se donne, qu'on le reçoit ou pas, Dieu se donne, qu'on le reçoit ou qu'on ne le reçoit pas.
Est-ce que l'éros et l'agapé sont compatibles ?
Oui, c'est complètement compatible et je voudrais souligner ici, c'est pour ça que j'ai voulu faire un traité sur l'éros et la liberté, parce que nous parlerons de la liberté aussi après, pour dire que sans éros, il n'y a pas d'éclosion dans l'amitié. C'est par le désir de la rencontre qu'il y aura la rencontre et le partage. Puis c'est par l'éros qu'il y aura le désir de générosité, car il y a ici une force d'amour qui nous pousse vers l'autre. Et c'est toujours l'éros. Et ensuite, il fleurit totalement dans l'agapé, c'est-à-dire qu'il faut avoir reçu l'amour pour le donner. On ne peut pas donner l'amour qu'on n'a pas reçu. Et ainsi, s'il n'y a pas cet éros, Eros, entendons-nous bien, qui est toute cette insufflation de la vie en nous, par laquelle on atteint à ce désir de la rencontre, à ce désir du partage, à ce désir de la générosité, et qui s'épanouit totalement dans le don de soi gratuit et généreux.
Et ce qui nous rappelle qu'on n'est pas de pur esprit, justement.
Ce qui nous rappelle qu'on n'est pas pur esprit.
L'éros, ça s'enracine dans notre état de corps, nos désirs, nos besoins, physiologiques aussi. Mais il y a la pointe, ça va se diriger vers quelque chose de plus haut.
De plus haut, de plus profond, mais aussi qui existe en Dieu. Les pères de l'Église parlent de manikos eros, dans le sens de l'amour fou de Dieu pour l'homme. Dieu est fou amoureux de l'homme, c'est-à-dire il est comme un amoureux tourné vers l'être humain qui est considéré comme la fiancée de Dieu. Donc il y a ces épousailles divino-humaines. Nous voyons souvent un Dieu législateur ou un Dieu punisseur, mais la Bible ne dit pas cela. Et le Cantique des Cantiques exprime pleinement ce rapport amoureux entre Dieu et l'homme. Et dans le rapport amoureux, il y a au cœur l'éros. Donc il y a rencontre de deux éros, où l'éros divin est en attente de réciprocité de cet éros humain. Peut-être même nous pouvons dire que l'éros humain est sollicité par cet éros divin et attend une libre réponse, c'est-à-dire une réciprocité.
À la suite des pères de l'Église, Philippe Dautet, vous dites que l'éros est donc un moteur pour notre croissance humaine et spirituelle à condition d'être bien orienté. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il y a un éros bien orienté et un éros mal orienté ?
Voilà, d'où le titre « Éros et liberté ». L'éros est un élan de vie. L'élan de vie est aveugle. Et l'élan de vie peut s'exprimer dans plein de directions différentes. Or, il peut être effectivement orienté selon l'aspiration profonde et originelle, ou bien il peut se dévoyer.
Par exemple.
Il se dévoie quand il se tourne vers le monde. Vers le monde qui n'est pas la source, mais le monde qui est le royaume des apparences, et qui est juste ce qui se donne à voir. Or, ici, j'ai dit tout à l'heure que l'éros est ce qui émerge dans l'être humain à la suite de ce désir de Dieu vers nous et qui appelle cette réciprocité. Donc la juste orientation est dans cette réciprocité. Il est relationnel, il est, pour les chrétiens, au plan de la personne. Par contre, l'amour dévoyé, l'éros dévoyé, s'exprime sur le plan de la nature, et à ce moment-là, il est dans la soumission et l'asservissement aux puissances de la nature, c'est-à-dire aux pulsions, pulsions sexuelles, pulsions au sens de ce qui peut jaillir en moi, mais d'une manière inconsciente, qui agit en moi malgré moi et me fait faire ce que je ne veux pas faire. Comme dit l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas.
Donc je perds ma liberté, là.
Donc je perds ma liberté. Donc il y a, je crois, et on peut faire l'articulation, on y reviendra un peu plus tard, entre, je dirais, ce qui est l'impulsion dans ma nature et me pousse à faire des choses que je ne gère pas forcément dans ma conscience et selon mon affinité profonde, et ce qui est dans l'ordre de la relation personnelle où j'ordonne mon éros à l'altérité de l'autre, dans le respect de l'autre, ou bien c'est ma pulsion qui domine et ma pulsion peut aller jusqu'à à nuire à l'autre, nuire sexuellement, nuire par la violence, et nous verrons comment l'éros peut se dévier en violence contre l'autre alors qu'il est une puissance d'amour qui devrait être au service de l'autre.
Éros et liberté, clé pour une mutation spirituelle, c'est le titre de votre livre, Philippe Dautet, paru chez Nouvelle Cité. Dans cet ouvrage, vous dites que quand la pulsion de vie qui nous rend vivants est mal orientée, elle se transforme en passion. Alors des passions, on les connaît souvent, c'est la convoitise, la jalousie, la colère. L'éros mal orienté nous amène à la violence.
Oui, nous amène à la violence contre l'autre. Et donc, comme disait Maxime le Confesseur, nous avons préféré les choses matérielles et profanes au commandement de l'amour, et parce que nous sommes attachés à ces choses matérielles, nous luttons contre les autres au lieu d'être en dynamique de coopération avec l'autre. Donc, effectivement, déviation de l'éros ici, c'est le désir qui s'incline vers la convoitise, l'avidité, l'esprit de prédation, l'esprit de consommation. Tout ce que l'on connaît aujourd'hui, qui est récapitulé dans cette société de consommation, c'est là une déviation. C'est au lieu que nous soyons dans la perspective du respect et de l'amour de l'autre, nous sommes dans la perspective de la consommation et de l'avidité, de la recherche des intérêts propres. Et c'est ça la déviation de l'éros. Et nous voyons bien combien c'est dramatique aujourd'hui, parce que en 2016, les 1% les plus riches possèdent autant que 99% du reste de la population. Donc il y a une disparité ici, une inégalité, et c'est toute cette déviation ici, c'est-à-dire la créativité et tout le déploiement de l'activité humaine, elle est pour mon intérêt personnel, dans un individualisme et un égocentrisme, et c'est ça cette déviation qui est bien au détriment du vivre ensemble et au détriment de la bonne relation avec les uns les autres dans le respect des plus petits de nos frères.
Oui, nous disions que l'éros, c'est cet élan de vie, donc il y a de l'énergie, c'est bon, et en même temps, il peut être dévoyé, vous venez de l'expliquer. Et alors, ce que vous dites aussi, c'est que les hommes et les femmes qui sont pris par ces passions, ça les tire hors d'eux-mêmes. Des hommes et des femmes en exil, dites-vous, nous nous perdons de vue quand nous sommes pris dans ces mouvements violents où l'éros est mal orienté.
Oui, ce mouvement de l'exil, il est situé au troisième chapitre de la Genèse. On parle de la chute, mais le mot chute n'est pas dans le troisième chapitre. Ce qui est dans le troisième chapitre, c'est l'exil. L'exil, c'est partir en dehors de soi-même. Quand nous sommes dans l'avidité, nous sommes tellement obsédés par ce que nous voulons obtenir que nous oublions les règles fondamentales, ou en tout cas nous perdons peut-être le juste rapport à l'autre parce que nous avons en vue notre intérêt personnel. Et nous nous déportons vers l'extérieur dans l'avoir, dans le savoir, dans le pouvoir. Et cet exil nous fait perdre la relation avec l'intime de nous-mêmes. Et par là, eh bien, non seulement nous portons tort à l'autre, mais nous devenons extérieurs à nous-mêmes, et à l'exil va correspondre dans la Bible tout le chemin de l'Exode, qui est le chemin de la terre d'exil, qui est l'Égypte, qui est la terre d'esclavage, pour dire qu'en exil, nous sommes esclaves des choses du monde. Nous sommes dépendants de ce que le monde peut nous fournir, de la place qu'on peut obtenir, etc. Et donc, tout le récit biblique nous invite à faire le chemin de la terre d'exil, d'esclavage, vers la terre promise, qui est la terre de la liberté. Et c'est bien tout le processus aussi de la liberté dans le processus de libération que j'ai voulu mettre en avant.
Donc sortir de l'esclavage.
Sortir de l'esclavage.
C'est un exode. Et alors on retrouve aussi le mouvement pour retrouver son intégrité dans la parole que Dieu adresse à Abraham, va vers toi. Vous voilà. Dites que ça nous invite à sortir justement de la dispersion parce que on serait en dehors de nous-mêmes pour retrouver l'intériorité.
Pour retrouver l'intériorité. Donc cette parole va vers toi, elle n'est pas traduite comme ça dans les Bibles. C'est au début du chapitre 12 de la Genèse où il est dit, où c'est traduit par va, quitte, par une redondance. Mais en hébreu, c'est l'er, le ra veut dire va vers toi. Et va vers toi est une parole initiatique. On retrouve cette même parole dans le Cantique des Cantiques où le bien-aimé dit à la bien-aimée, va vers toi. C'est traduit par viens vers moi. Imaginez une seule seconde que votre conjoint dit viens vers moi et non pas va vers toi. Vous voyez comment il peut y avoir un rapport de domination, d'asservissement, etc. Alors que va vers toi est un mouvement de libération. Donc c'est une parole libératrice. Et le va vers toi n'est pas contraire au chemin vers Dieu. Parce que on a quelquefois enseigné d'aller vers Dieu jusqu'à l'oubli de soi.
Oui, dans le christianisme.
Dans le christianisme. Et en fait, il s'agit d'aller vers Dieu en passant par soi-même, car ce n'est pas en faisant l'impasse de soi qu'on va aller vers le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes en soi. Donc aller vers soi et aller vers le plus intime en nous-mêmes que nous-mêmes en soi, c'est-à-dire vers Dieu, c'est la même chose. Donc il s'agit bien d'aller au cœur de soi-même, et au cœur de soi-même, il y a une présence intime qui est la présence de Dieu lui-même. Donc va vers toi et aller vers Dieu, c'est la même chose, et je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui.
Philippe Dautet, vous dites que revenir à soi-même va permettre de développer ce que les pères appellent la voie de la vigilance, c'est-à-dire voir ce qui m'agite, prendre conscience des états qui m'habitent, me voir quand justement je pars à l'extérieur de moi-même.
Oui, donc il y a les modes de la vigilance et le mode du revenir à soi qui est indiqué par le Christ dans Matthieu chapitre 6, c'est quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Première partie, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il y a bien cette idée de se mettre dans un lieu intime, qui est la chambre, de fermer la porte, qui doit être prolongée par le fait d'entrer dans la chambre du cœur, et de fermer la porte aux préoccupations, aux soucis, à tout l'encombrement mental. Donc le Christ nous invite bien à cette intériorité, à la promotion de l'homme intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, le grand désastre, c'est que nous sommes projetés dans le monde extérieur, vers l'homme extérieur qui s'assimile à l'ego, et que la réponse vraie aux problématiques d'aujourd'hui est par l'homme intérieur, par la découverte du Fils de l'homme en nous, c'est-à-dire de cet homme intérieur qui perçoit consciemment ou inconsciemment, la présence de Dieu en lui.
Alors, vous utilisez le mot de cœur, justement. Vous dites que on peut descendre dans le cœur profond. Alors, j'aimerais que vous expliquiez ce qu'est ce cœur au-delà de l'organe. Voilà. Dans la Bible, ça a une signification bien précise.
C'est une signification bien précise. Le cœur profond a été appelé par un théologien orthodoxe appelé Olivier Clément, qui est maintenant décédé, cœur-esprit. Pour dire que la dimension de l'esprit et la dimension du cœur profond, c'est la même chose. Donc évidemment, ce n'est pas le cœur organe, mais c'est le lieu de la profondeur qui est le centre du corps, le centre de l'âme et le lieu de l'esprit. Donc c'est un espace en nous qu'on peut expérimenter. Je ne peux pas le décrire, mais on peut l'expérimenter, c'est un espace de silence. En fait, on peut descendre dans un espace de silence en nous qui n'est pas perturbé par le mental. Et cela s'expérimente dans la proposition du Christ, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et si on descend par la sensation intérieure, ça je le montre dans le livre, par le fait d'intégrer la dimension de la sensation, et nous retrouvons ici l'éros, parce que nous sommes dans une société hyper cérébralisée, et nous pensons qu'avec la tête. Mais en fait, les pensées, elles ne viennent pas du cerveau, elles viennent du cœur, c'est le Christ qui le dit. Donc elles viennent de la profondeur. Et il s'agit de descendre dans cette profondeur, par le fait de descendre dans la sensation intérieure.
Mais c'est quoi cette sensation intérieure? Vous parlez de sensation.
De sensation profonde, qui n'a rien à voir avec la sensualité ou la sensorialité, qui est le fait de sentir intensément au-dedans. Et en fait, si on descend dans la sensation profonde, premièrement, ça nous coupe des pensées, et deuxièmement, on respire la dimension de l'être. C'est à expérimenter, et c'est ça tout l'objet de la méditation. Et les chrétiens sont invités par le Christ à méditer. Puis le deuxième temps de la méditation, c'est la prière. Et la prière est indiquée dans le verset que j'ai cité par le fait « Et ton Père qui est dans le secret sera en relation avec toi ». Donc entrer dans une relation priante et aimante avec Dieu en nous, ça c'est la prière, mais suppose d'abord de retrouver cet espace ici de silence et un espace de non-perturbation intérieure, un espace inconditionné en nous, c'est cela l'esprit, donc un espace qui est soustrait à toute l'influence et les conditionnements du monde. Et oui. C'est très important parce que c'est à la racine de notre liberté. Et cet cœur-esprit se confond avec ce que la Bible nomme « image de Dieu dans l'être humain ». Donc cette image de Dieu, elle peut s'expérimenter et elle est cet espace intérieur à découvrir dans lequel il y a la possibilité de devenir observateur des états d'âme et observateur des réalités extérieures sans être perturbé par ces réalités. Oui, c'est ça le monde de l'esprit.
Alors justement, on parlait de cet éros mal orienté. Justement, si on fait le calme en nous, on va le découvrir, on va bien voir.
Voilà. Et donc, pour justement se libérer de la déviation, il s'agit d'abord de la voir. Si on s'en rend pas compte, eh bien, elle agit en nous malgré nous. Donc, il s'agit d'abord de l'observer. Et par l'opération de la méditation, l'exercice de la méditation, on éveille l'observateur en nous. Et en éveillant l'observateur, on éveille le sujet qui peut poser un regard sur ses mouvements intérieurs et ainsi s'en désidentifier, ne plus coller avec, ne plus être en fusion ou en confusion avec ses mouvements, mais voir nos comportements et commencer à poser un regard pour les réorienter d'une manière juste.
Troisième volet d'une série d'entretiens avec le père Philippe Dautet, prêtre orthodoxe, auteur du livre « Éros et liberté » paru aux éditions Nouvelle Cité. Philippe Dautet, nous avons vu que l'être humain est animé par une belle force de vie, l'éros, mais que cet élan vital, eh bien, il devra fleurir dans l'agapé, dans le don de soi pour porter des fruits, de beaux fruits. Sans don gratuit, il y a donc un risque. L'éros va se transformer en passion captatrice?
C'est toute la problématique de l'être humain, problématique de la liberté. Donc, que nous soyons mus par une force de vie est une chose, l'usage que nous en faisons est autre chose. Et ici, toute la question est justement, qu'est-ce que nous allons faire de notre vie? Qu'est-ce que nous allons servir dans notre vie? Qu'est-ce que nous allons promouvoir dans notre vie? Et nous avons là une immense responsabilité. Avec la dimension de la liberté, advient la dimension de la responsabilité. On est dans l'usage et la mise en mouvement.
Nous disions que par le retour sur soi, par la méditation, lorsqu'on descend au plus profond de son cœur, on va voir quels sont nos mouvements intérieurs. Et là, il y a une étape supplémentaire après, dont vous parlez dans le livre, ça va être la transformation, là, ce qu'on appelle la métanoïa, une sorte de conversion à l'intérieur de soi?
La conversion, c'est déjà le retour à l'intérieur. De revenir de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ça la métanoïa. Et c'est en même temps aller vers l'avenir. parce que la métanoïa ouvre l'avenir. Et c'est là où on voit qu'on est piégé par les traductions, parce que quand on dit repentir, on pense tout de suite à un repentir par rapport au passé. Or, en fait, le terme métanoïa en grec ne dit pas qu'il s'agit de se tourner vers le passé, mais d'ouvrir un avenir nouveau qui ne soit pas la reproduction des déviations du passé. Donc de sortir de la répétition. Et ça, je crois que c'est très important, parce que dans le retour vers le passé, on est dans la culpabilité, on regrette, on est dans les remords, on se remord sans cesse ce qui n'a pas été juste, et on alimente cette culpabilité, je dirais, morbide. Alors que dans la métanoïa, c'est prendre acte des erreurs du passé pour ne pas les reproduire et finalement s'en servir pour ajuster et s'ajuster à l'être. Et ça, je crois que c'est très important comme dynamique, tout d'abord de transformation, justement.
Donc ça vise le futur.
Ça vise le futur. Donc peu importe que nous n'ayons pas su être auparavant, l'important c'est maintenant d'advenir. Peu importe nos erreurs du passé, l'important c'est de ne pas les répéter et de prendre acte de ces erreurs pour justement s'ajuster, rectifier et avoir une juste dynamique de l'éros.
Mais prenons un exemple très concret. Cette force de vie, elle s'incarne par exemple dans vouloir quelque chose, vouloir acquérir quelque chose. Alors ça peut être pour le partager, mais ça peut être aussi captateur. Et si je me vois tout le temps dans la convoitise, comment se fait la transformation ?
Donc la convoitise, on a toujours une tendance à vouloir capter, capturer, être dans la prédation, etc. Je crois que on peut souffrir beaucoup aussi, et c'est ça que veut dire passion aussi, est en lien avec la souffrance. On souffre quand on veut absolument obtenir quelque chose. Or, en fait, à nous appartient le désir de nous disposer dans le désir de quelque chose. Mais le résultat du désir, c'est-à-dire ce qu'on va obtenir, ne nous appartient pas. Donc, par exemple, nous pouvons avoir un projet de vie, nous pouvons avoir même un projet concret, professionnel, familial, etc. Donc, mettre en route tout ce qui est nécessaire, parce que si on ne met pas en route, les choses ne viendront pas d'elles-mêmes, ça c'est clair.
Et grâce à l'élan de vie, justement.
Et grâce à l'élan de vie, donc force de créativité, force d'inventivité et d'ingéniosité, et tout ça peut être mis en mouvement. Et en même temps, dès que on le met en mouvement, il s'agit d'être dans un rapport dialogal. J'entends par là qu'il s'agit de savoir accueillir ce que les autres et ce que la vie, ce que les événements vont me renvoyer pour peut-être rectifier ma trajectoire. Parce que peut-être mon élan est juste, et il est bien que je sois dans cet élan et que je sois dans ce projet, mais ma façon de m'avancer dans le projet n'était pas juste. Et c'est là où les événements de la vie et l'autre va venir rectifier. Et c'est là où il ne faut pas vouloir obtenir absolument quelque chose, mais aller dans ce projet de vie qui adviendra et qui va éclore, mais peut-être pas dans la manière que j'avais prévu au début. Et on sait très bien que tout ce que nous avons fantasmé, c'est pas ça qui arrive. Ce qui arrive, c'est autre chose. Et donc, accepter que la volonté de Dieu se fasse concrètement, ça veut dire que ça sera pas forcément comme j'avais prévu, mais comme c'est possible. Et cela est possible eu égard à ce que je suis au-dedans, à ce qu'est l'autre que j'implique ou les autres que j'implique et ce qu'il en est aussi de la réalité du moment. Donc, être souple par rapport au résultat. Donc, à nous appartient le désir, mais je dirais d'une manière un peu directe, à Dieu appartient le résultat et ce n'est pas forcément comme j'avais prévu. Et c'est là où il y a un lâcher-prise et c'est là où il y a à entrer dans cette petite voix de Thérèse de Lisieux, la confiance et l'abandon. Et je crois qu'autant il s'agit d'oser le désir, autant il s'agit de se décrisper et d'être détendu par rapport à ce qui va advenir à partir de ce désir.
Philippe Dautet, vous parliez de souplesse, se laisser faire. En même temps, on pourrait se dire, est-ce qu'il ne faut pas aussi engager sa volonté ? Parce que parfois, ça bataille fort en nous. Donc, est-ce que c'est un peu à la force du poignet aussi qu'il faut se battre ?
Alors, la force du poignet, ça renvoie à une dimension volontariste. Il ne faut pas confondre, je crois, volonté et volontarisme. Pour moi, la volonté est importante dans le sens de la mise en mouvement du désir. Avoir un désir, c'est une chose, mais si on ne le met pas en mouvement par la volonté, rien ne se fera. Mais maintenant, entre le mettre en mouvement par la volonté et être dans le volontarisme, c'est tout à fait autre chose. C'est justement ce que j'ai bien distingué auparavant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un volontariste de vouloir obtenir absolument ce qu'on veut obtenir, sinon, eh bien, on aura peut-être des désagréments et sûrement on va souffrir parce que si on n'obtient pas ce que l'on veut, on va souffrir.
Mais la volonté quand même rentre en
Mais la volonté dans le sens où c'est par la volonté où on met en mouvement le désir. Qu'on ait le désir est une chose, mais qu'on le mette en mouvement est autre chose, c'est bien par la volonté. Mais le volontarisme, c'est le désir d'aboutir, selon un concept, une conception qu'on a préformalisée auparavant, et à ce moment-là, on risque de déboire. Donc, faut pas confondre volonté et volontarisme, et c'est là où il y a toute la différence entre la dimension de l'être et la dimension de l'ego. Dans l'être, je peux mettre en mouvement le désir, dans l'ego, je veux récupérer ce mouvement pour aboutir là où mon ego voudrait aboutir, mais qui ne correspond pas à ce qui est juste.
Là où ça se complique, visiblement, c'est quand saint Paul nous dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Donc, on se rend compte que finalement, on est peu maître des choses.
Alors, on est peu maître au départ, mais il s'agit de le devenir. Il s'agit de le devenir. C'est un point très important, ce point-là. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et il faut poursuivre la phrase, mais maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc on pourrait dire, c'est l'inconscient qui habite en moi. On pourrait dire aussi, c'est l'éros qui est en moi, qui me pousse dans mes pulsions à faire des choses, alors que ma conscience est tout à fait contraire, ou en tout cas s'oppose à cela.
Oui, mais ça veut dire que je suis dépassé par mon inconscient.
Je suis dépassé par mon inconscient. Mais nous sommes souvent dépassés par les pulsions, par l'inconscient, par l'inconscience, tout simplement. Et ça montre ici un point très important. C'est que la vie est vivante. L'éros est vivant. Et si je ne prends pas en main l'éros, si je n'intègre pas cet élan de vie, il peut agir en moi, malgré moi, et me faire faire ce que je ne veux pas faire. Et à ce moment-là, je suis dans la déviation de l'éros. C'est-à-dire dans le fait que l'éros n'est pas ordonné à la conscience qui doit être le guide de l'éros. D'où l'éveil de conscience nécessaire, et c'est bien ça, le chemin spirituel, que d'être dans un éveil de conscience, et ne pas se laisser emporter par le pulsionnel, mais ordonner cet élan de vie à l'autre, au respect de l'autre. C'est bien l'humanisation de l'être humain et la spiritualisation de l'être humain qui sont en jeu et qui sont fondamentaux ici.
Alors pour cela, les pères nous invitent à pratiquer des petits exercices. On n'aura peut-être pas le temps de parler de tout, mais pour sortir de l'ego, un exercice par exemple, que l'on peut faire.
Un exercice, c'est de lâcher le fait d'obtenir telle chose. Donc, de se disposer dans le désir, de se disposer dans l'élan, de se disposer dans la créativité et de laisser vivre la vie et d'être observateur en tant que, et participant à la fois et en même temps être dialogue avec la vie, dialogue avec l'autre. Donc il va me renvoyer comment il reçoit mon élan de créativité ou ma proposition ou ma force d'ingéniosité. La vie aussi qui va me renvoyer par les événements, il va me dire quelque chose. Et ainsi, il s'agit d'entrer dans un rapport dialogal.
Oui, c'est ce que vous disiez au début.
Ce que je disais au début, ça veut dire qu'il s'agit de cultiver l'attention et de cultiver l'écoute. Et je crois qu'il est beaucoup plus profitable de poursuivre un projet, par exemple, dans un rapport de dialogue avec l'autre et avec la vie, que de vouloir d'une manière obtuse poursuivre un projet dans une perspective que l'on croit juste, mais qui s'avère finalement poser problème au fur et à mesure que l'on met en perspective et que l'on met en mouvement ce projet et qui va aboutir évidemment à quelque chose qui va être problématique à un moment donné par rapport aux autres et par rapport à moi-même aussi. Donc l'exercice, c'est l'exercice d'écoute. Et c'est l'exercice de la vigilance qui est bon pour toute chose.
Nous poursuivons avec vous, Philippe Dautet, nos entretiens au sujet de l'éros dans la tradition chrétienne. Les premiers pères de l'Église nous laissent un héritage précieux pour nous aider à bien comprendre combien les passions de l'âme peuvent entraver la relation, alors relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Ce que vous décrivez très bien dans votre livre sur le plan individuel, à savoir l'ego qui veut tout pour lui, eh bien on le retrouve sur le plan collectif. Et vous en parlez, vous montrez par exemple, comment l'appétit insatiable des plus riches provoque des catastrophes à l'échelle planétaire. Ça veut dire que tous nos comportements individuels ont des répercussions à l'échelle globale.
Je crois que les comportements individuels s'additionnent et finalement résonnent au plan global. Et ainsi, on en vient clairement aujourd'hui à considérer que le changement global commencera par le changement individuel. Je rappelle cette phrase magnifique de Gandhi, « Soit le changement que tu veux voir advenir dans le monde ». Donc, il s'agit de commencer d'abord en soi-même. Et on a toujours tendance à attendre des autres et à considérer que c'est le politique qui doit régler cette question. Or, en fait, j'aimais bien beaucoup cette parole aussi de Kennedy qui disait aux Américains « Ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique ». Donc là, nous sommes dans un renversement de position qui appelle à une responsabilité personnelle. Et aujourd'hui, un Pierre Rabhi ne dit pas autre chose avec le mouvement des colibris où chacun doit faire sa part. Donc, faire sa part, et c'est considérer qu'il n'y aura pas de mutation du monde et du collectif s'il n'y a pas une mutation personnelle. C'est à nous de revisiter notre rapport au cosmos, notre rapport écologique, donc notre rapport à l'autre, nos modes de vie. Il n'est plus possible de continuer de la même manière aujourd'hui parce que nous sommes dans un esprit de prédation qui fait que nous consommons bien plus que ce que la planète peut nous fournir chaque année. Vous savez que chaque année, maintenant au mois d'août, on a fini d'épuiser les ressources renouvelables pour l'année. Donc on est en train d'entamer sur le futur. Et on voit bien que cet esprit de prédation qui s'enracine dans le cœur de l'être humain.
Ben oui, nous l'avons dit.
C'est là où la racine des défis actuels et de la crise écologique et économique et financière, je dirais aussi, est dans le cœur de l'être humain. Et ça s'appelle convoitise, ça s'appelle avidité, ça s'appelle esprit de prédation. C'est bien dans le cœur de l'être humain que ça se passe. Et nous voyons bien là que c'est dans le cœur de l'être humain que doit commencer la mutation. Sinon, on met des rustines, sinon on essaie de trouver des solutions techniques, mais c'est pas ces solutions techniques qui nous permettront d'entrer dans la mutation salutaire du monde, c'est par la mutation intérieure, et je dirais la mutation évangélique, puisque c'est rejoindre complètement l'Évangile.
Alors, effectivement, vous avez décrit dans nos entretiens l'homme qui veut attirer à lui la création, qui veut se replier sur sa création et qui veut aussi agir comme un prédateur. Mais on le retrouve quand même à l'échelle collective, dans l'entreprise par exemple, ou dans la manière dont on gère les ressources naturelles, comme si le cosmos était un réservoir inépuisable. Donc ce mouvement, il se joue aussi à l'échelle beaucoup plus importante.
Voilà, et c'est là où on voit que nos sociétés sont une bonne caisse de résonance de la problématique personnel et individuel. Et donc, elle nous donne à voir à grande échelle les effets dévastateurs de l'égocentrisme, de cet esprit de prédation. Et nous voyons aujourd'hui, d'une manière claire et évidente, comment nous sommes dans une problématique majeure, c'est-à-dire que la planète ne pourra pas survivre au rythme de prédation ou au rythme d'exploitation de l'être humain par rapport à cette planète.
Donc, on peut appeler ça de l'éros mal orienté, là aussi, à l'échelle collective.
C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est ce que nous avons dit auparavant, c'est-à-dire que en fait nous voulons exploiter le cosmos au lieu d'être le jardinier du cosmos. Mais dans le livre de la Genèse, Dieu nous avait demandé que l'on garde et qu'on cultive le jardin. Mais il est question de l'intériorité et c'est là que nous avons tout déporté sur l'extérieur. Nous avons déporté sur l'extérieur le fait de cultiver le jardin du cœur. Et nous avons cultivé au départ le jardin extérieur et maintenant nous sommes passés de la culture à l'exploitation, du jardin à l'exploitation agricole. Et donc nous exploitons le cosmos en se plaçant comme maître et possesseur de la nature alors que nous devrions être les jardiniers de la nature et que nous devrions être là pour faire féconder la nature qui donne à foison chaque année, le printemps est là, et le printemps montre la générosité de la nature. Pourquoi vouloir faire produire? Et à vouloir faire produire, on stérilise. Nous le voyons bien. Donc, on voit bien que c'est une mentalité. C'est toute une posture. Et la posture, elle est d'abord au plan individuel, et puis ensuite, eh bien, elle se généralise, mondialise sur un plan collectif.
Oh,
Philippe Dautet, dans votre livre, vous citez le très beau passage du buisson ardent dans le livre de l'Exode. Vous dites que cet arbre qui brûle et qui ne se consume pas nous enseigne que le cosmos est la parure de l'invisible. Ça veut dire que la création tout entière reflète cet invisible.
Tout à fait. La création est l'apparaître de l'invisible. Donc ce moment du buisson ardent est magnifique parce que Moïse, il est sorti d'Égypte et il est au mont Moria et il fait cette expérience du buisson qui est tout en feu et ne se consume pas. Ce buisson tout en feu qui ne se consume pas, c'est le cosmos. Et ça nous dit que, en fait, le cosmos, il est enflammé de l'éros. Il est justement plein du feu de l'éros et ne se consume pas. Or, en fait, le buisson en feu qui ne se consume pas, nous le retrouvons aussi dans Marie, qui porte le feu de la divinité par la présence du Christ en elle, sans être consumée par ce feu. Et il dit ici toute la résonance du fait que le cosmos est pleinement habité par ce feu de l'éros, mais aussi par la présence divine. Donc il y a une dimension ici théophanique de Dieu présent dans le cosmos.
Mais on retrouve ça par exemple dans Jean, dans le prologue de Saint Jean, qui dit que tout a été créé en Jésus-Christ.
Voilà, tout a été fait par lui et sans lui rien. Donc le cosmos est le fruit des 10 paroles. C'était déjà dans le livre de la Genèse, c'est encore dans le prologue de Jean. Et si le cosmos est créé par les 10 paroles, ça veut dire que les éléments cosmiques sont incorporation de la parole divine et de la présence divine. D'un côté, on a voulu identifier dans les temps anciens le cosmos et Dieu, et on a déifié les puissances cosmiques, et c'était l'idolâtrie. En réaction, l'Église a insisté sur la transcendance de Dieu et a évacué Dieu du cosmos en disant « Dieu est totalement transcendant », mais je crois qu'il s'agit de retrouver le juste équilibre. Il est bien clair que Dieu est transcendant au cosmos et en même temps les énergies divines pénètrent le cosmos, sans quoi il n'y aurait pas la vie. Et la vie dans le cosmos est là par émanation, rayonnement des énergies divines qui font vivre tout ce qui est. C'est ce qui est rappelé complètement dans la dimension eucharistique et dans la Sainte Cène.
Et c'est pour ça que vous, orthodoxe, vous avez cette vision d'un cosmos appelé à la résurrection en entier. C'est très présent en Orient.
Très présent. Pour nous, nous allons vers la transfiguration définitive du cosmos.
Ce qui fait que c'est pas n'importe quoi, le cosmos.
Transfiguration définitive, ce qui fait que le cosmos n'est pas n'importe quoi. Et même le Christ, quand il s'est incarné, il s'est cosmicisé, si je puis dire. Il s'est incarné dans la dimension cosmique, dans les dimensions biochimiques, mais dans tous les éléments de la matérialité du cosmos. Et c'est là où ensuite il dit du pain, « Ceci est mon corps », pour dire que le cosmos est sa chair. Et ça ouvre ici des perspectives où, en fait, la chair, elle est sauvée. Bassora, qui vient de Bassar, chair, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Donc, c'est le salut par la transfiguration du cosmos. Donc, nous n'allons pas vers la fin du monde, ou plutôt, nous allons vers la fin d'un monde qui se conjugue avec la transfiguration définitive du cosmos, qui est le fruit de la parole de Dieu, qui, elle, vit et ne cessera d'éclore à travers les éléments cosmiques. Donc le cosmos ne va pas être complètement détruit, mais le cosmos va être transfiguré. Mais le monde ici ne dit pas le cosmos, le monde dit la façon dont l'homme a géré le cosmos, c'est-à-dire le monde des passions, et ce monde des passions, lui, sera détruit.
Oui, mais on y revient justement, parce que à voir comment gère aujourd'hui, comment on gère le cosmos, ça fait froid dans le dos. Comment retrouver le sens justement de la contemplation et sortir de la prédation face à ce monde créé qui est beau, qui est bon?
Alors je crois que le fondamental aujourd'hui au plan spirituel et religieux, c'est d'entrer dans une culture de l'émerveillement, de l'étonnement, et donc d'ouvrir le regard et d'apprendre à saisir toute la beauté. Parce que la beauté du cosmos, c'est la beauté de la gloire de Dieu cachée dans le cosmos. Et je crois qu'il s'agit aujourd'hui d'ouvrir les yeux. On est complètement refermé face aux écrans. Et il s'agit de sortir des écrans pour entrer dans une culture de l'émerveillement. Et je crois que le retournement aujourd'hui du collectif va venir par la poésie, par l'émerveillement, par regarder la splendeur et regarder le miracle de la vie, car la vie est un miracle permanent et on veut toujours exiger plus, mais on passe à côté de l'essentiel.
Mais la protéger aussi, parce que...
Mais si on est émerveillé, on protège ce qu'on trouve beau et ce qui nourrit notre âme, on va le protéger. Mais justement, c'est parce que nous avons chosifié le monde et parce que nous l'avons réduit à des objets, nous l'avons objectivé, que nous ne respectons plus, mais au contraire, nous avons transformé les objets en marchandises, et tout est devenu marchandise, tout se vend et tout s'achète, et donc le cosmos n'est que de la matière, et c'est parce qu'il est que de la matière qu'on ne respecte pas. Mais si on voit qu'il est beaucoup plus, que justement il est la splendeur de l'invisible, et la splendeur du resplendissement de la présence divine, alors on pourra être amené à le respecter.
Suite et fin de notre dialogue, Philippe Dautet, au sujet de votre dernier livre, Eros et Liberté, paru chez Nouvelle Cité. Nous parlions de la prédation qui pousse l'homme assoiffé de biens matériels à dévaliser la nature, conséquence d'un Eros mal orienté. Alors, pour refermer nos entretiens, j'aimerais qu'on parle de la vie de couple. Parce que on parle justement de l'éros quand on parle de la vie de couple. Vous consacrez la dernière partie de votre ouvrage à ce thème. Vous-même, vous êtes prêtre orthodoxe, marié. Sans éros, il n'y a pas de rencontre amoureuse. Ça fait vraiment partie de la vie amoureuse.
Complètement. L'éros, c'est fondamental. Il y a le mystère de la rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre une personne avec qui on veut s'allier pour la vie, avec qui on veut conjuguer au quotidien notre vie? Et qu'est-ce qui fait qu'on rencontre d'autres personnes avec qui on n'a pas du tout ce désir? Il y a quelque chose qui est un mystère profond, cette dimension d'élan, d'amour, qui est un amour, un élan aveugle au départ, et qui en même temps va se construire par la suite. Et je crois qu'il s'agit de saluer ici ce miracle de la rencontre. La rencontre, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire.
Vous dites qu'il est important dans le couple d'articuler l'éros et l'agapé. L'un et l'autre, pas l'un sans l'autre.
Je crois qu'on passe par différents stades, c'est-à-dire que tout d'abord, nous sommes dans un élan commun fusionnel au départ, et je crois que c'est heureux que ce soit comme cela au tout départ, et puis ensuite, il s'agit aussi de construire une complicité. Si on n'est pas dans le fait de pouvoir se dire les choses et d'atteindre une complicité dans notre façon de voir la vie et de mener notre vie ensemble, alors il y aura une difficulté dans le couple. Et puis d'autre part aussi la générosité, c'est-à-dire on ne doit pas avoir pour soi, mais dans le couple, évidemment, on pense d'abord à l'autre, avant soi.
Oui, mais ça, c'est pas toujours le cas.
Mais c'est justement, on voit que l'élan amoureux ne suffit pas et que derrière, il s'agit d'œuvrer pour cette dynamique relationnelle. Alors, ce que je crois fondamental ici, c'est qu'il s'agit de passer du mouvement de la nature, de l'attirance, nous allons dire, vers l'autre, au mouvement de la personne. Comment approfondir la qualité relationnelle avec l'autre, qui passe par le fait d'être dans l'accueil de ce que veut l'autre, de ce qui serait bien pour l'autre, etc. Donc de sortir de son ego, de sortir du moi pour aller vers le toi.
Mais vous décrivez bien, Philippe Dautet, dans votre livre, la déviance, souvent, justement, de l'éros, qui se transforme en violence dans le couple, vouloir l'autre pour soi, parfois être violent même physiquement avec l'autre, ou verbalement, ouais, parce que l'autre nous échappe.
Alors je crois, et j'ai dit dans le livre, en fait, plus il y a d'amour, plus il y aura la disponibilité généreuse par rapport à l'autre, plus ça va renforcer l'amour. Mais, à défaut, si la parole n'est pas là pour arriver dans une voie de transparence avec l'autre, c'est-à-dire de pouvoir se dire les choses. Là où la parole manque, l'éros ne suffira pas à assumer pleinement et d'une manière juste la vie conjugale et va s'exprimer dans la violence contre l'autre. C'est-à-dire que l'autre devient à ce moment-là quelqu'un qui me contrarie dans ce que je veux faire. Et dès que nous sommes sur ce registre, alors nous voyons le renversement de l'éros qui, dans le bel élan qui a amené à la rencontre, va se dévier dans une violence contre l'autre, parce que l'autre, il n'est pas vu comme un sujet, mais comme quelqu'un qui vient compléter mes manques ou compléter mes blessures.
Je pense non.
Philippe Dautet, nous disions dans ces entretiens que finalement la vie spirituelle c'était une transformation progressive pour soi-même en tant que sujet, mais alors dans la vie de couple, c'est à deux que cela se joue, cette réorientation de l'éros vers quelque chose de paisible, de vivant, de dynamique.
Oui, je crois que c'est très important aujourd'hui de rappeler que la vie de couple a pour but l'amour, l'accomplissement de l'amour. On a souvent dit que le but du mariage, c'était les enfants. Je m'inscris en faux, complètement, avec les pères de l'Église, pas mon opinion personnelle. Je crois que c'est très important.
Les
pères de l'Église ont une opinion très claire sur le mariage. Donc, du point de vue, en tout cas, de l'Église orthodoxe, le mariage a une dimension mystique à l'égal de la vie monastique, Et donc, par le rite orthodoxe du mariage, il est signifié que le mariage est un chemin à deux qui conduit vers le plein épanouissement de chacun des conjoints par l'autre. Ça signifie dans le rite proprement dit que le rite du couronnement. Nous avons trois étapes, la préparation, puis ensuite les fiançailles. Les fiançailles, c'est à l'entrée de l'église où on échange les alliances. Donc, c'est deux personnes qui s'aiment, qui désirent se marier. C'est à leur initiative que se réalise le mariage, ça part de leur désir, de leur éros, et ils signent leur désir d'alliance par l'échange des alliances. Ça leur appartient complètement. Pour nous, ce n'est pas ça le sacrement du mariage, mais c'est ce qui va déclencher le sacrement du mariage.
Et alors c'est quoi après ?
Ensuite, on les emmène dans la nef, près de l'autel, et là, on va les couronner, leur mettre des couronnes sur la tête, et quand le prêtre met la couronne sur la tête des mariés, il va dire « Le serviteur de Dieu, un tel, est couronné par la servante de Dieu, une telle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et mutuellement, il est signifié ici que le mariage, c'est la pleine réalisation et le plein épanouissement de l'un par l'autre. C'est cela le mariage, et les enfants seront les fruits bénis du mariage, qu'ils seront les fruits bénis du débordement de l'amour du couple. Ce qui est premier, c'est l'amour, et ce qui est premier, c'est d'atteindre à l'ultime de soi, c'est-à-dire à l'accomplissement spirituel de chacun par l'autre.
Mais alors justement, dans cette perspective, l'éros et l'agapé vont pouvoir s'articuler harmonieusement.
L'éros va pouvoir fleurir dans l'agapé. En fait, pousser l'amour jusqu'au bout, qui est l'amour de l'autre pour l'autre, et non pas l'amour de l'autre pour moi. Aimer l'autre pour lui-même, faire que chacun puisse être révélé, émerger au plan de sujet dans un dialogue du je et du tu. Et c'est ce vers quoi doit conduire le mariage et non pas une crispation sur les égaux qui va tourner évidemment en violence. Donc c'est tout le sens du mariage, de passer de la nature, c'est-à-dire de tout l'élan de vie, vers l'accomplissement de la relation personnelle et finalement atteindre à cette dimension ultime mystique de la tradition chrétienne, qui est la dimension de la personne qui est éternelle en Dieu.
Donc on s'aide dans le couple à devenir de plus en plus une personne,
voilà,
habitée par l'esprit.
Complètement. Et à ce moment-là, on voit bien qu'on transcende complètement l'exigence naturelle de la reproduction, qui est un des aspects du mariage, mais qui n'est absolument pas la vocation spirituelle du mariage, mais qui est la résultante existentielle. Et on va louer, effectivement, la cellule familiale. C'est magnifique, la cellule familiale, au plan social et existentiel, mais c'est, je dirais, en plus, c'est par surcroît. Mais le fond, c'est que l'amour croisse entre les époux, car si l'amour ne grandit pas entre les époux, de quelle famille parle-t-on ?
Un grand merci à vous, Philippe Dautet. Je recommande la lecture de votre livre « Éros et liberté, clé pour une mutation spirituelle ». Il est paru chez Nouvelle Cité. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.